Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historien Dimitri Tillois d'Ambrosie, auteur des 24 heures de la vie sous Néron, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Bonjour Dimitri Tillois d'Ambrosie.
Bonjour Virginie Giraud.
Au fil des siècles, la chute de l'Empire romain est devenue une sorte de mythe, c'est un peu le maître étalon de la mort des civilisations, et les causes de cette chute sont nombreuses. Elles commencent par une crise politique qui cause en domino d'autres crises, économiques, sociales, migratoires, religieuses, morales. Et l'historien américain Kyle Harper, auteur du livre « Comment l'Empire romain s'est effondré » paru aux éditions La Découverte, évoque deux autres causes qui auraient provoqué la chute de Rome, les changements climatiques et les pandémies. Pour lui, la fin de la République et le début de l'Empire à partir donc de 27 avant Jésus-Christ ont profité d'un contexte climatique idéal. Il appelle ça l'optimum climatique romain. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, ce que Kyle Harper définit comme l'optimum climatique romain est une période qui est comprise entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et il fait aller cette période jusqu'aux années 150 après Jésus-Christ. Donc, sous le règne d'Antonin le Pieux, on est sous la dynastie des Antonins, qui est un traditionnellement considéré comme un âge d'or pour l'Antiquité romaine. Alors, cette période correspond, d'un point de vue géopolitique, effectivement, à une expansion de l'Empire si on se place au 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque de la victoire sur Carthage, de l'expansion en Orient, et, comme on vient de le dire, le 2e siècle après, et l'apogée. Donc, on a deux bornes dans l'histoire de Rome qui manifestent, effectivement, une croissance de la puissance romaine. Et Kyle Harper, en fait, fait correspondre cette période d'expansion et d'apogée de Rome a des conditions climatiques particulièrement favorables pour le monde romain, avec des températures plutôt chaudes, une humidité et donc une pluviométrie suffisante, et évidemment ce qui est fondamental pour l'agriculture, et donc évidemment des conditions naturelles favorables à un essor économique et également pour la production de nourriture.
Et qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie de Kyle Harper ? C'est le climat qui aurait favorisé l'expansion de Rome ou il y a quand même d'autres causes ?
Alors c'est une théorie effectivement qui est assez séduisante, une démonstration qui peut paraître convaincante, mais qui effectivement doit appeler à certaines réserves, à certaines critiques même dans sa démonstration. Effectivement, les éléments naturels jouent un rôle fondamental dans l'essor d'une société. Mais en tant qu'historien, il faut toujours se garder de déterminisme, c'est-à-dire que l'environnement, la géographie, les éléments naturels prédominent sur l'action de l'homme. Or, je suis convaincu que les décisions, les stratégies adoptées par les sociétés et par le pouvoir romain, en l'occurrence, ont été bien plus déterminants que les conditions climatiques ou épidémiologiques.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les hommes forts comme Jules César, comme Auguste, ont participé à l'expansion de l'Empire et il n'y a pas que le climat qui a compté là-dedans. D'ailleurs, quand les hommes forts disparaissent, à partir du 3e siècle, on voit apparaître une crise politique qui en entraîne d'autres. Vous nous rappelez ce que c'est exactement que ce qu'on appelait, quand on était étudiant, la crise du 3e siècle ?
Alors cette crise du 3e siècle prend comme point de départ l'assassinat de Sévère Alexandre en 235, qui meurt sans héritier. Et s'ouvre jusqu'aux années 280 une période de profonde instabilité du pouvoir impérial, où les empereurs se succèdent à un rythme assez important, où il y a beaucoup d'usurpations. On voit apparaître également de plus en plus d'empereurs issus à la fois du monde des militaires et aussi du monde des frontières, notamment des régions danubiennes ou d'Illyrie. Alors, à cela s'ajoute également une crise économique, une crise monétaire. On le voit dans la qualité des monnaies qui sont produites également. Et donc, c'est une profonde période d'instabilité et de doute. Alors, Kyle Harper fait correspondre justement à cette période du 3e siècle, deuxième moitié du 3e siècle, une période également d'instabilité climatique, puisqu'il met en évidence l'émergence de périodes de sécheresse qui auraient eu des conséquences sur la production alimentaire. Bon, là aussi, il faut se montrer assez prudent. Mais je pense que cette période est avant tout caractérisée et conditionnée par cette crise politique et militaire aussi, puisque sur les frontières, et ça c'est essentiel, la pression exercée par les barbares est de plus en plus forte. Alors, sur le Danube, par les peuples germaniques, et surtout en Orient avec les Perses, il faut rappeler qu'à la fin de la dynastie des Sévères, les Parthes, avec lesquels les Romains étaient en conflit assez régulièrement, représentaient une menace, mais une menace qui était finalement assez circonscrite et assez contrôlée. Avec les Perses sassanides, on entre dans une autre logique, puisque cet empire se montre beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant également, et représente une menace bien plus dangereuse pour Rome. Donc ces deux éléments, voilà, aussi expliquent les dangers de cette époque.
D'ailleurs, les sécheresses qu'évoque Kyle Harper touchent essentiellement l'Égypte, qui en fait, au 1er siècle, a encore un climat qui est plus humide et qui permet à l'Égypte d'être le grenier à blé. Donc qu'est-ce que ça change pour l'Égypte ?
Alors l'Égypte dépend effectivement en grande partie pour sa production agricole et pour son économie, pour sa vie même, on pourrait dire, de la crue du Nil. Et cela est vrai depuis l'époque pharaonique. Une bonne crue est garante du dépôt du limon sur les terres agricoles et donc d'une bonne récolte de blé. Et il est vrai que depuis Auguste, hein, avec la mise au point de la préfecture de l'Annon, Rome et l'Empire dépendent dans une large mesure de l'Égypte pour l'approvisionnement en blé. Alors il faut nuancer tout de même, puisqu'il y a d'autres greniers à blé dans l'Empire romain. La province d'Afrique proconsulaire, qui était aussi plus fertile à l'époque qu'elle est aujourd'hui, puisque ça correspond à la Tunisie actuelle. Et puis également la Sicile, par exemple. Et puis évidemment, les terres italiennes. Donc je pense qu'il faut, évidemment, la production, une mauvaise production de blé en Égypte est très défavorable pour la stabilité de l'Empire. Mais il faut prendre en compte deux choses, que d'autres territoires produisent aussi des céréales, d'une part. Et puis également, certes, l'approvisionnement est essentiel, mais il faut jamais négliger le fait que, notamment dans les campagnes, on constitue beaucoup de stocks, et dans les villes aussi, et beaucoup de réserves. On trouve, par exemple, chez les auteurs agronomiques, tout un tas de recettes, de conseils pour préparer des conserves, de légumes notamment, ou de fruits. Donc en fait, les sociétés sont assez adaptées, finalement, aux chocs qui pourraient subvenir suite à de mauvaises récoltes, par exemple. Donc certes, elles jouent un rôle, mais qui est à nuancer.
Elles savent anticiper, effectivement, les problèmes, puisque c'est obligé pour survivre de réussir à mettre de la nourriture de côté en cas de problème. Donc c'est des choses que les gens de l'Antiquité savent faire. Et d'ailleurs, s'il y a plus de sécheresse au sud de l'Europe, au nord, le climat devient un peu plus froid, plus humide, il y a plus de catastrophes naturelles, plus d'inondations. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment fragiliser le nord de l'Empire, vous pensez ?
Alors, ces conditions qui deviennent plus défavorables, hein, effectivement, peuvent jouer un rôle négatif, mais elles n'expliquent pas tout. Comme on le disait tout à l'heure, hein, il faut se garder de tout déterminisme. Et concernant les provinces plus septentrionales de l'Empire, là aussi, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le contexte géopolitique. L'insécurité croissante, notamment à partir du IIIe siècle, et qui se renforce par la suite, hein, suite aux pressions des barbares, hein, des peuples germaniques sur le Rhin et sur le Danube, effectivement. Ouais.
Et Grégoire le Grand, qui est donc l'un des pères de l'Église au VIe siècle, considère que les catastrophes climatiques qu'il constate, notamment en Italie, annoncent la fin du monde. Donc, au VIe siècle, la population s'est déjà massivement convertie au christianisme. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu millénaristes ? Est-ce qu'ils n'attendent pas le jugement dernier ? Est-ce que tout n'est pas signe de la fin des temps pour eux ?
Alors effectivement, sous le pontificat de Grégoire le Grand, on peut retrouver un certain alarmisme, hein, face aux épidémies de peste dont on parlera tout à l'heure. Et puis face à effectivement une accumulation de catastrophes, de crues désastreuses, dévastatrices, notamment du Tibre. Et on a des descriptions assez épouvantables, hein, des dégâts causés par cette crue. Mais il faut aussi être vigilant par rapport à la nature des sources et aux textes qui racontent ces histoires, puisque ce sont des auteurs chrétiens et qui bien souvent écrivent l'histoire et l'interprètent à la lumière de considérations morales et théologiques. Et donc, de telles catastrophes sont aussi interprétées comme la colère divine. Pourquoi ? Parce que les conversions sont insuffisantes, le comportement moral est insuffisant, et donc il faut aussi tenir compte de ce paramètre religieux qui est essentiel. Mais effectivement, on assiste à l'émergence et l'affirmation d'un discours eschatologique dans l'attente de la fin des temps, et millénariste, mais cela étant, ce n'est pas la première fois dans l'Empire qu'on a de tels discours, puisque si on se place en Judée au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a aussi dans la société juive de nombreuses attentes messianiques que l'on perçoit notamment dans le Nouveau Testament et qui attendent, qui traduisent aussi un climat d'angoisse, d'incertitude face au contexte de l'époque.
Et parallèlement au changement climatique, il y a aussi les épidémies qui ravagent régulièrement l'Empire. Au IIe siècle notamment, il y a ce qu'on appelle la peste antonine qui va particulièrement traumatiser les Romains. Vous nous racontez cet épisode fort de l'histoire romaine ?
Alors, cette expression de peste antonine, on parlait aussi de peste gallinique, puisque un des grands témoins de cette peste a été le célèbre médecin Galien, originaire de Pergame en Asie mineure et qui s'est retrouvé à la cour de l'empereur Marc Aurèle, donc qui a connu une carrière assez importante et qui est un témoin privilégié de cet épisode. Alors, le terme de peste antonine ne doit pas induire en erreur, puisque le terme de peste, en fait, doit être ici compris au sens de pestilentia, c'est-à-dire une pestilence au sens générique du terme. Aujourd'hui, les analyses, qui s'appuient notamment sur les descriptions des textes, laissent penser qu'il s'agit d'une épidémie de variole, alors maladie aussi contagieuse et dangereuse que la peste. Alors, on a un historien, Cassius Dion, qui écrit donc au IIIe siècle, qui raconte que lors des campagnes de Lucius Verus, donc il court en prendre Marc Aurèle en Orient face aux Parthes, à Séleucie-du-Tyr, donc qui est une grande cité de Mésopotamie, eh bien un temple d'Apollon est pillé par les troupes, et qu'à l'occasion de ce pillage, une sorte d'exhalaison toxique se répand et se diffuse dans tout l'Empire, et qui est porteuse de ce mal mortel qui se diffuse jusqu'à Rome et en Occident. Alors, cela aussi fait référence aux conceptions médicales de l'époque. Pourquoi ? Puisque on ne connaît pas l'existence de virus ou de bactéries, et on explique la diffusion de maladies mortelles par les miasmes, c'est-à-dire un air qui est vicié et contaminé par le mal. Donc ça, c'est le récit classique d'une épidémie qui part de la Mésopotamie pour diffuser vers l'Orient. Alors, Ce que montre Kyle Harper, et cela semble tout à fait juste, c'est qu'en réalité, cette épidémie semble venir plutôt de la mer Rouge. Pourquoi ? Parce que c'est une zone où les contacts commerciaux sont très importants. C'est une zone d'interface entre le monde indien et le monde méditerranéen via l'Égypte. Et donc, c'est par ce biais que la maladie se répand dans tout l'Empire. Alors, cette maladie fait de nombreuses victimes. On estime le bilan entre 5 et 10 millions de morts. Kyle Harper donne le chiffre de 7 millions, mais il faut toujours se montrer très très prudent dans les chiffres et les statistiques démographiques pour l'Antiquité, qui sont très très fluctuantes. Et il faut rappeler que l'empereur Marc Aurèle lui-même, sur le Danube, hein, près de Vienne aujourd'hui, meurt de cette maladie en 180. Donc c'est une maladie voilà, qui suscite l'effroi et qui se traduit également par de nouvelles manifestations de sensibilité religieuse avec une recrudescence de la dévotion envers Apollon, puisque Apollon est un dieu guérisseur aussi, outre ses fonctions de dieu des arts, de la beauté et de la lumière.
Et oui, puisque la maladie, l'épidémie aux yeux des Romains, c'est une punition divine, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment honoré les dieux. Alors, on va faire un petit bond dans le temps. On arrive en 476, c'est la date symbolique de la chute de l'Empire romain d'Occident. Romulus Augustule est déposé, il n'y a plus d'empereur de la lignée romaine. Et l'Empire continue à vivre de l'autre côté. C'est l'Empire romain d'Orient, avec Byzance pour capitale. Et au VIe siècle, il y a un empereur qui est absolument fascinant, c'est Justinien. Et Justinien va faire face à tout un tas d'événements tragiques. Et le premier événement tragique de son règne, c'est la première peste de l'histoire. Vous nous racontez ?
Alors, effectivement, les années 640 sont marquées par l'émergence de la première peste bubonique et qui se répand dans tout l'Empire à une vitesse effroyable. Alors, il faut rappeler qu'entre-temps, dans les années 250, il y a eu une autre épidémie qu'on appelle la peste de Cyprien, du nom de l'évêque Cyprien de Carthage qui en était le témoin, et qui semble avoir été identifiée comme un virus proche d'Ebola et qui a ravagé l'Empire, mais qui était plus circonscrite dans le temps. Alors cette peste de Justinien émerge donc dans les années 640 et frappe l'Empire régulièrement pendant quasiment deux siècles. Donc c'est une maladie qui se diffuse et qui de façon récurrente va connaître plusieurs explosions, plusieurs éruptions, aussi bien en Orient qu'en Occident. Alors l'origine de cette maladie aujourd'hui a été bien établie, et notamment puisque ces dernières années on a réussi à séquencer l'ADN de Yersinia pestis, qui est le nom scientifique de la peste. Alors on sait aujourd'hui que cette maladie vient de l'ouest de la Chine. Donc ça, c'est le foyer géographique de cette épidémie et qui, évidemment, on le sait, revient en Europe au Moyen-Âge, au XIVe siècle. Et autre découverte fondamentale, on associe souvent cette peste au rat. En réalité, le réservoir biologique de cette épidémie terrible est une variété de marmotte. Donc beaucoup moins terrifiante que le rat, mais tout aussi redoutable par les bactéries qu'elle porte. Alors plus précisément, ce sont effectivement, on le sait ça, les puces que véhiculent ces animaux qui sont ensuite transmises à l'homme et qui sont à l'origine de cette maladie. Alors, quant au circuit de cette maladie, là aussi, l'Orient en est la source, avant de se diffuser en Occident, et il est probable là aussi que cette maladie soit arrivée via le Proche-Orient, via la mer Rouge probablement, avant de se diffuser jusqu'à Constantinople, et puis de là vers l'Occident. Alors, les descriptions que l'on a pu conserver de cette maladie et de ses effets sont absolument terribles. On raconte à Constantinople, par exemple, que les victimes étaient si nombreuses qu'il était nécessaire de les empiler dans les tours de défense de la ville. Alors là aussi, il faut toujours être très vigilant dans la description des récits d'épidémies que l'on peut avoir pour l'Antiquité. Il y a souvent une tendance à exagérer, évidemment, la vision apocalyptique de cette maladie et de ses effets. Là aussi, parfois d'ailleurs dans une dimension moralisante, et puis aussi pour donner un souffle épique au récit. Mais en tout cas, il est certain que cette épidémie a eu des conséquences désastreuses sur la population, puisqu'on estime sa létalité à 50-60%. Donc les chances d'en réchapper étaient parfois assez minces, mais il y avait quand même aussi des possibilités de survivre.
Et Justinien d'ailleurs est touché par la peste et il survit, ce qui est vu comme un miracle.
Absolument.
Quasiment. Alors le problème de Justinien, c'est qu'il fait face à la peste bubonique et en même temps, il y a aussi un petit âge glaciaire qui est en train de se mettre en place entre le 5e siècle et le 8e siècle et simultanément des éruptions volcaniques qui obscurcissent le ciel, donc tout ça avec des impacts très importants sur l'agriculture puisque entre les morts et les problèmes climatiques, il n'y a pas assez de bras dans les champs pour cultiver notamment le blé. Et malgré tout, l'empire de Justinien est relativement prospère, il est en pleine expansion. Comment vous expliquez cela ?
Alors justement, cet état des choses est assez intéressant puisqu'il nuance tout de même l'idée que le climat exerce un impact décisif sur la destinée de l'Empire. Malgré toutes ces difficultés, malgré les épidémies, malgré le refroidissement du climat, effectivement, l'Empire de Justinien est un empire qui s'affirme et même qui s'étend. Qui s'étend puisque, grâce à son fameux général Bélisaire, Justinien parvient à exercer un contrôle sur l'Italie et surtout sur l'Afrique du Nord. Et il faut rappeler aussi que l'Afrique dispose de nombreuses ressources économiques utiles pour l'Empire, dont des céréales. Alors, il faut aussi rappeler que Justinien parvient à capter de nombreuses ressources essentielles pour l'Empire, de l'eau, grâce à la construction d'aqueducs ou de réservoirs, et puis les céréales avec la construction de greniers et d'entrepôts qui permettent de stocker et d'assurer un bon approvisionnement. Donc ici, les décisions du pouvoir, les ressources qui sont captées, la situation militaire qui est plutôt favorable, eh bien, permettent effectivement de surmonter les contraintes exercées par la nature.
Alors, pour résumer en un mot, Dimitri Tilloy d'Ambrosie, est-ce que le climat et les pandémies sont responsables de la chute de l'Empire romain ?
Alors, les épidémies et le climat ont certes posé des conditions défavorables pour l'Empire romain, mais elles ne sont pas les seules, elles ne sont pas décisives surtout. Il faut vraiment se garder de tout déterminisme. Et je pense vraiment que l'histoire politique doit aussi être prise en compte, ça c'est essentiel, l'histoire économique, l'histoire militaire également. En fait, c'est une multitude de facteurs qui expliquent la disparition progressive de l'Empire romain. Et surtout, ce qui est vraiment fondamental, je pense, c'est de ne pas voir la chute de l'Empire romain comme un événement qui survient de façon monolithique, comme si l'Empire s'effondrait d'un seul coup en bloc. En réalité, il faut vraiment tenir compte des approches régionales qui montrent une histoire beaucoup plus nuancée, avec par exemple une province de Bretagne où effectivement le retrait de Rome est précoce et beaucoup plus rapide, mais au contraire, par exemple la péninsule ibérique qui, même à la fin de l'Empire, connaît une relative prospérité.
Dimitri Tilloy d'Ambrosie, on constate que les historiens se sont penchés sur le climat de manière assez récente dans l'histoire. Selon vous, est-ce que c'est une manière de regarder l'histoire avec les yeux du présent ? Est-ce que c'est une pensée anachronique ?
Alors, il faut rappeler que l'étude du climat n'est pas une chose récente. On peut citer le célèbre historien Emmanuel Leroy Ladurie qui, en fait, dès les années 1960, a commencé à se pencher sur l'histoire du climat. Par contre, ce qui peut être nouveau, effectivement, c'est de se pencher sur cette question à la lumière des préoccupations actuelles liées au réchauffement climatique, hein, qui est indéniable, et qui, effectivement, anime certaines craintes. De même que le regain d'intérêt pour l'histoire des épidémies, effectivement, a été aussi alimenté par la crise du Covid-19. Cela étant, effectivement, il faut prendre en compte l'idée que, notamment l'histoire de la chute de Rome, a souvent été conditionnée par les préoccupations de l'époque. Qu'il s'agisse, à l'époque des Lumières, de Montesquieu ou de Gibbon, par exemple, du rôle du christianisme dans l'affaiblissement de l'Empire, la prise en compte de la question migratoire également dans l'affaiblissement de l'Empire, ou au contraire dans sa dynamique. Et donc, je pense effectivement qu'il y a, en tout cas dans les axes de recherche, une certaine préoccupation, un certain conditionnement par les préoccupations de notre époque. Donc, le regard que porte l'historien est bien souvent conditionné par les préoccupations de son temps, même si tout bon historien doit faire preuve d'objectivité dans ses analyses.
Merci Dimitri Tilloy d'Ambrosie pour cette réflexion autour du déclin de la chute de l'Empire romain. Je rappelle que votre dernier ouvrage, 24 heures de la vie sous Néron, vient de paraître aux presses universitaires de France. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles. À bientôt.